Amen. Père, je réalise, ce n'est pas le message, mais je réalise combien nous avons besoin de connaître, nous tous, Jésus-Christ, de connaître Jésus. Et je réalise combien nous avons une grande pauvreté à l'intérieur de notre cœur. Nous avons besoin de connaître la personne de Jésus. Je crois qu'il faut revenir, et nous le partagions avec Christian, à la nécessité de parler encore davantage de la personne de Jésus. Et de nous recentrer sur le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Amen. De nous recentrer sur le message de la bonne nouvelle. C'est ce que je reçois au plus profond et dans l'intimité de mon cœur après cette année 2018 où j'ai vécu des choses extraordinaires qui sortent vraiment de l'ordinaire, où le Seigneur m'a dit « Mais reviens à moi, reviens à moi ». Non pas que j'ai été éloigné du Père, non pas que j'ai été éloigné de Jésus, mais de revenir à la personne de Christ, afin que cette personne de Christ se manifeste au-dedans de notre cœur et que nous reflétions qui est Jésus dans notre environnement, dans notre entourage, auprès de ceux qui nous entourent, auprès de ceux qui nous rencontrent, que nous manifestions la personne de Christ au-dedans de nous, d'en être le reflet. Je veux dire cela parce que je ressens comme une nécessité qui s'impose à chacun d'entre nous de revenir à l'Évangile, à la pureté de l'Évangile, la bonne nouvelle à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est la guérison que Dieu veut apporter dans les cœurs, dans les corps, dans l'âme, dans l'esprit. Dieu veut restaurer, racheter notre être tout entier. Il n'y a pas une parcelle de notre existence que Dieu ne veut pas racheter. Dieu veut racheter la totalité de notre âme. Il y a eu un message qui a été donné un mercredi soir où il était question de l'âme. De l'âme. J'aime mon âme. Et vous pouvez vous le dire. Vous pouvez vous le dire à chacun d'entre vous. Votre âme qui a pu être blessée, qui a pu être torturé, malmené par la vie et par l'existence, le Seigneur aime votre âme. Et le Seigneur veut que vous puissiez aimer à votre tour votre propre âme. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parfois nous aimons, mais nous n'aimons pas notre être. Or, je ne peux pas aimer mon prochain si je ne m'aime pas moi-même. Amen. Donc, aimez votre prochain comme vous-même. Revenez à cette restauration que l'Esprit-Saint veut donner à votre cœur. C'est le message que je vous donne là, mais ce n'est pas le contenu de ce qui va être décliné et développé, parce qu'en 2018, fin de l'année 2018, nous avons été invités à nous mettre quelques jours devant la face du Seigneur pour entendre les orientations qu'il veut donner à l'Assemblée. Et je crois qu'il nous faut faire un rappel de ce qui a été dit pour nous quand l'Esprit-Saint nous parle, c'est qu'il nous invite vraiment à nous mettre en marche avec lui, avec Christ. Je crois que c'est important de revenir à ces dimensions très simples, très basiques, c'est pas très compliqué ce que Dieu nous dit. Ça change parfois des messages que j'ai pu donner dans l'Assemblée, un peu compliqués, mais là, je vais donner des résolutions d'une grande simplicité qu'il nous faut comprendre. La première recommandation pour l'année 2018, elle reste identique à celle, pour 2019, elle reste identique à celle de 2018. C'est un saut dans le temps. Le Seigneur nous invite à le refléter. Première résolution, je le développerai et je le redéclinerai. La seconde résolution, c'est de nous aimer les uns et les autres. De nous aimer les uns et les autres. Il y a un apprentissage dans la vie de l'Église à nous aimer les uns et les autres, à nous accepter les uns et les autres, à nous accepter tels que nous sommes. Il ne s'agit pas d'aller réformer le cœur de son frère ou de sa sœur, de changer son attitude, parce que ça, vous ne le ferez pas. Je vous garantis que c'est un échec que de vouloir réformer l'attitude des uns et des autres. Nous sommes appelés à nous laisser changer par l'Esprit Saint, parce qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous changer. D'accord ? Je ne peux pas me changer moi-même. Et je ne peux pas changer mon frère ou ma sœur. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous changer. La troisième résolution, c'est d'aimer ton prochain. Non pas celui qui te ressemble, c'est-à-dire le proche. Dieu ne te demande pas d'aimer le proche, mais d'aimer le prochain. Vous comprenez ce que je veux dire ? D'aimer le prochain. Le proche, c'est facile, je dirais, de se laisser aimer par celui qui me ressemble. D'accord ? Et d'aimer celui qui me ressemble. D'accord ? Mais d'aimer le prochain, c'est beaucoup plus difficile. Et je vous partagerai ce que j'ai reçu hier matin. Où le Seigneur me dit, ne prends pas le journal Le Point pour attendre une petite sœur dans la salle d'attente, tu vas faire le point avec moi, avec l'Évangile, avec ce que je vais te dire. Et tu ris parce que c'est vrai et nous l'avons vécu de manière authentique. Je vous partagerai et je ne ferai aucun commentaire dans la parole que le Seigneur a laissée. La quatrième recommandation, c'est de prier sans cesse. Vous l'avez entendu par le pasteur Olivier, qui nous a vraiment recommandé de prier, de prier, de prier, de prier sans cesse. Et nous verrons que c'est toutes sortes de prières que le Seigneur attend et en tout temps. Et cela commence le matin, mais ça peut être dans notre vie professionnelle, au moment de la pause, ou bien même pendant notre travail, nous pouvons prier sans cesse. Et le Seigneur nous demande finalement que notre esprit soit connecté au sien. Relié au sien. La cinquième résolution concerne notre sanctification. Et la sanctification, c'est de te mettre à part, corps, âme, esprit, en sanctifiant profondément le nom de Jésus dans ta vie. Mettre à part son corps, son âme, son esprit, en sanctifiant profondément le nom de Jésus dans ta vie. La sixième recommandation, résolution, et je vais les décliner, c'est de publier son nom et de le confesser sans aucune honte. Confesser son nom publiquement, favorable ou non, nous rappellent les Écritures, de confesser son nom sans honte aucune. Le nom de Jésus est le seul qui peut nous sauver. Ce n'est pas la religion qui peut nous sauver, ce n'est pas le monde politique qui peut transformer le cœur de l'homme, c'est bien Jésus. Et c'est le seul nom qui peut changer notre situation, qui peut changer la vie dans notre environnement. Enfin, la septième résolution, sois toi-même un disciple. Que nous soyons dans une fonction ou une autre dans l'assemblée, le Seigneur nous dit « Sois toi-même un disciple. » Et un disciple, c'est un modèle, c'est un exemple pour les autres. C'est un modèle que l'on a envie de suivre. J'ai voulu suivre Jésus parce que Jésus s'est imposé comme le modèle qu'il fallait suivre. Vous vous rendez compte, un président qui décide d'être le serviteur de tous, c'est extraordinaire. Dieu, lui, a décidé d'être le serviteur de tous. Waouh ! Il n'a pas pris de la hauteur, il a été à notre hauteur. Et il a décidé d'être notre serviteur en se mettant à genoux. C'est extraordinaire ce modèle. Et le Seigneur nous invite à être ce modèle-là, ne pas nous mettre en hauteur, mais de nous mettre juste à la hauteur. Et de servir l'autre, pas de se servir de l'autre, mais de servir l'autre. Vous comprenez ? Amen. Pas de se servir de son prochain, mais de servir son prochain. Et je dis prochain, c'est pas proche, c'est le prochain. Il y a toute une nuance. C'est facile de servir le proche parce qu'on sait qu'en retour, on va être servi par lui. Mais servir le prochain, c'est sans retour. Amen. Qui est prêt à être dans la gratuité de l'Évangile ? Je n'attends aucun retour dans le service que je rends. Parce que c'est ce à quoi je suis appelé pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Être la lumière du monde, oui, ben le Seigneur a fait de moi la lumière et le sel. Et je dois être la lumière et le sel. Et il n'y a pas honte de dire « je suis la lumière » parce que Jésus t'a fait de toi la lumière autour de toi. Au sens propre, soyez la lumière et le sel. Alors je vais reprendre chacune de ces exhortations, si vous le voulez bien. La première exhortation, c'est « reflétons Christ ». 2 Corinthiens 3, « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Alors, on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, c'est-à-dire qu'au fond, je ne connais pas encore la gloire du Seigneur. Elle m'est cachée, elle m'est voilée. C'est comme dans un miroir que je contemple sa gloire. Je ne le vois pas en totalité. Et je n'ai donc pas la prétention de faire connaître Jésus comme il est, parce qu'il va se révéler à chacun d'entre nous dans notre propre cœur. Mais je le contemple aujourd'hui comme dans un miroir. Mais bientôt, mes amis, nous le découvrirons dans la gloire. Amen. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image, donc la même image que Jésus. Transformés en exactitude. Nous sommes semblables à lui, semblables à Jésus, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. L'Esprit de Jésus qui nous transforme de gloire en gloire. Et nous savons tous que dès que nos regards se détournent de Christ, qu'est-ce qu'il arrive ? Dès que notre regard se détourne de Jésus, eh bien c'est l'obscurité qui nous envahit. Nous l'avons tous expérimenté dans nos vies. Dès que nous nous sommes détournés du Seigneur, c'est l'obscurité, les ténèbres qui sont venues dans notre cœur. C'est le début des tentations, les désirs qui nous conduisent à nous déporter, à déporter notre regard vers son appel. Et le Seigneur nous dit ceci, que ton œil soit en bon état. Que ton œil soit en bon état. C'est une exhortation pour nous dire, ne convoitez pas le monde. Que ton œil soit bon, en bon état. Ça veut dire que garde-toi d'être tenté par les désirs que t'offre ce monde. Garde ton œil en bon état. Il y a tellement de tentations qui se présentent, qui s'offrent à nous, et le Seigneur nous invite à nous garder de toutes ces tentations, que notre cœur soit pleinement en mesure de refléter Jésus. Et nous sommes chaque jour intimement convoqués à vivre l'intimité avec Jésus. Donc refléter Jésus, c'est vivre dans son intimité. Refléter Jésus, c'est vivre dans son intimité. C'est vivre le quotidien avec le Seigneur. Le quotidien. Recevons la lumière et débutons notre journée dès demain matin et dès ce soir quand tu fermes ta lampe. Tu dors avec le Seigneur, tu l'associes dans ton sommeil et dès que tu commences ta journée, tu commences par le louer et à le remercier pour la journée qu'il t'a donnée hier. et qu'il va te donner aujourd'hui. Chaque jour, fais du Seigneur tes délices. Amen. Fais du Seigneur tes délices. Christ doit être la seule personne sujet de mon affection. Vous comprenez ? Ça ne veut pas dire que je néglige les autres. Ça ne signifie pas que tu ne dois pas aimer ton proche ni ton prochain. Mais c'est le seul objet de ton affection. Plus tu aimes Christ, plus tu aimes ton prochain. Amen. Amen. Waouh. Plus tu aimes Christ, n'est-ce pas Claudine ? Plus tu aimes Jésus, plus tu aimes ton prochain. Plus tu aimes Jésus, plus tu aimes ton prochain. Plus tu aimes ton frère, plus tu n'es pas en train de le juger. Plus tu aimes Jésus, plus tu aimes ton prochain. Oh, Seigneur, plus tu l'aimes, plus tu l'aimes, plus tu aimes ton prochain, tu n'as plus de jugement dans ton cœur. Moi, je le ressens aussi. Et je ressens que c'est puissant. En contemplant, en aimant Jésus, c'est son image qui va se refléter d'une manière pratique dans notre vie. Souvenez-vous, mes amis, que le reflet de Christ dans notre vie, c'est la manifestation de l'Évangile. C'est la manifestation de l'Évangile. Dans le monde, beaucoup pratiquent une religion, mais bien peu, hélas, le véritable Évangile. Ça ne veut pas dire que nous allons être épargnés de vivre une religion. Nous pouvons vivre la religion si nous ne sommes pas dans l'intimité avec Jésus. Nous pouvons avoir des comportements très religieux au milieu de nous. Mais le Seigneur veut que tu vives puissamment l'Évangile, que tu sois touché par l'Évangile. Il n'y a pas de vraie communion avec Christ si nous ne sommes pas décidés à emboîter son pas. Trop souvent, on ne recherche Christ que pour être sauvé. Mais Jésus ne vous demande pas de rechercher Jésus pour être sauvé. Il faut accepter de le refléter dans le monde dans lequel nous sommes. Il ne faut pas s'arrêter à la porte du salut. Vous comprenez ? Jésus nous dit et nous invite, suis-moi. Tu es sauvé, immédiatement, c'est suis-moi. Et c'est vrai ? Vous confirmez ? C'est bien ça, hein ? C'est suis-moi. C'est pas à la porte du salut, je suis sauvé, Seigneur, et je m'assois et puis je fais la fête parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Mais Jésus te dit tout de suite, fais la fête, mais va faire la fête en l'annonçant qui je suis. Manifeste la joie du salut. Et ne te tais pas, n'aie pas honte de vivre cet appel dans ton quotidien, d'annoncer la bonne nouvelle autour de toi. Fais la fête, mais au quotidien, parce que tu as reçu Jésus qui est venu sauver ton cœur, transformer ta vie. Amen. Alors ne nous occupons pas du monde en 2019, ni de mondanité, ni de plaisir, ni de politique, ni de religion. En 2019, ne vous occupez pas de politique. Ne vous occupez pas, parce que ça va aller mal. Je vous l'annonce prophétiquement, ça va aller très, très, très mal. Donc, ce n'est pas la peine que vous vous en occupiez. Parce que déjà, au 1er siècle, ça allait très, très mal. L'Empire romain était en décrépitude. Mais les chrétiens se sont occupés de l'Évangile. Et ils se sont occupés des affaires de leur Église. La manifestation de Christ dans le monde. Et c'est comme ça qu'on transforme le monde. En s'occupant des affaires du Père. Je m'occupe des affaires de mon Père, a dit Jésus à son papa Joseph et à sa maman Marie. Je m'occupe des affaires de mon Père, Alors en 2019, occupons-nous des affaires du Père. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données en plus. Car nous aurons beaucoup à faire à nous occuper des plus pauvres, à nous occuper des déshérités, des déchus, de ceux qui sont exclus. Dieu veut que nous nous occupions de nos affaires, les celles du royaume. Ne vous occupez pas, ne vous embarrassez pas des affaires de ce monde, mais occupez-vous du royaume. Amen. Vous occupez des affaires de ce monde, ce n'est pas manifester Christ. Je suis désolé. Manifester Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir des responsabilités, car Dieu peut te conduire à avoir des responsabilités sociales, avoir des responsabilités politiques, mais d'abord tu mettras Jésus en premier dans ton cœur et tu manifesteras le royaume dans ton cœur. Et Dieu va te demander d'être exemplaire là où tu te trouves, au stade où tu te trouves, de manifester Christ là où tu as été choisi d'être. Amen. Deuxième exhortation, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Or, ce commandement ne nous invite pas à le déclarer publiquement. Vous savez, c'est très difficile de dire en pleine chair, je vous aime. Je suis désolé, mais je ne vous aimerai que si je vous mets en pratique. Et si je vous mets en pratique ma foi, alors oui, je vous aime. Mais je ne vais pas rester au déclaratif. Parce que le déclaratif, c'est tellement facile. Vous savez, les gens pleins de miel, on en connaît autour de nous. Mais le Seigneur veut que ton cœur soit habité résolument par une réalité que tu mets en pratique, l'amour de l'autre, de ton prochain. C'est ce qui nous a été dit ce matin. Mets en pratique. Ce qui importe, c'est que tu deviennes exemplaire dans ta capacité à aimer ton frère et ta sœur. Prêt à renoncer à ta volonté pour être au service de celui qui est dans la souffrance, dans la peine, la maladie, l'isolement, mais qui est membre de ton corps. Ton frère, ta sœur qui est dans l'isolement, qui souffre, qui est malade, qui est dans la précarité, il est membre de ton corps. Tu ne vas pas te soucier de ton frère et de ta sœur qui est à l'hôpital, qui est isolé, qui est seul, qui peut être éloigné géographiquement. Nous sommes appelés à prendre soin, à une église qui prend soin. Nous sommes tous appelés à être bergers. Ne comptez pas sur les pasteurs pour être le berger de tous. Nous sommes tous appelés à être des petits bergers et à prendre soin des uns et des autres. Amen. Vous comprenez? Parce que si c'est qu'une église avec des brebis qui se conduisent comme des moutons, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on soit les brebis du Seigneur qui suivent le Seigneur. Vous comprenez? Vous êtes d'accord, Sabine? Des brebis qui suivent le Seigneur. Voilà. Oui, elle a bêlé, mon épouse. Parce que si, effectivement, pour moi, c'est mon thermomètre. Si je dis une bêtise, je sais qu'elle me reprendra. Tant mieux, et je dis Amen. Nous sommes invités à le refléter au travers de son corps. Et le corps, c'est l'Église. Ainsi, nous sommes invités autant que cela est possible à porter le fardeau, à soulager, à consoler, à dépanner, à faire un mille avec son frère, ça a été souvent dit en 2018, l'aider à se rendre à un rendez-vous, à se déplacer, c'est du concret l'évangile, c'est du pragmatique. Oui. Jean 13, verset 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour, mes amis, est l'expression de la foi vécue. C'est l'accomplissement de la loi, mais l'amour est une invitation à vivre pleinement la loi, or sans obéissance au commandement de Dieu, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain, nous serons juste confrontés à une forme d'incohérence, de futilité, de mirage. L'amour sans mise en pratique, ce n'est pas l'amour. Je suis désolé, hein. L'amour sans mise en pratique, ce n'est pas l'amour, ça reste une déclaration. Ok ? Donc, invite à faire ton frère 1 000 et toi qui as répondu à son appel, tu fais 2 000 avec lui. Tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à faire 2 000 avec lui ? 2 000 ! L'aller-retour ! Amen. Mais en fait, ce qui est... Mais si on fait ceci, comme je viens de l'indiquer, si on fait ceci par peur, par crainte, parce que le pasteur l'a dit, par soumission, par conformisme religieux, bah ce n'est pas non plus l'amour. Parce que l'amour, c'est un acte volontaire. Personne ne t'a dit de le faire, c'est toi qui volontairement le fais. Amen. Amen. C'est un acte libre qui ressort de l'appel à aimer sans condition, sans réserve, aucune, pour son frère et pour sa sœur. Sans condition. Dieu ne te demande aucune condition. Tu le suis, tu aimes. Waouh. Je connais un philosophe qui s'appelle Michel Onfray qui trouve ça insupportable, cette foi chrétienne, qui est justement l'amour abnégation. L'amour résolu à faire le bien quand bien même il n'y aurait pas de retour. Insupportable, ce philosophe. Je l'ai lu hier, je me dis, je comprends. Mais oui, il préfère le peuple romain qui persécutait les chrétiens. De quel esprit est-il animé ? Je n'en sais rien. Alors justement, la troisième exhortation, c'est « aime ton prochain ». Ça va ? Vous me suivez ? Il n'y a pas de souci ? Personne ne dort ? Amen, et je le dis Amen, mais je prie pour lui, hein. Je prie pour son salut. Parce qu'il y a un philosophe qui le lui a écrit, qui lui a dit, mais qui sait si tu ne rencontreras pas Jésus et qu'à la fin de ta vie, tu ne viennes parler de Jésus. Et c'est son maître en philosophie qui l'admire. Extraordinaire. Et c'est ce qui va se passer, parce que je le crois. La troisième exhortation, ma sœur, aime ton prochain. Écoute bien. Écoutez bien. Je ne ferai aucun commentaire sur la parole que Jésus m'a laissée hier matin dans ce cabinet médical où il avait besoin de faire le point avec moi. Et cette parole de Jésus est si puissante qu'elle est un mot d'ordre. Et je vais lire in extenso, sans aucun commentaire. Je vous invite même à fermer les yeux. Luc, chapitre 6, du verset 27 au verset 36. Luc 6, du verset 27 au verset 36. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous a-t-on ? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? Même des pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, comme votre Père est généreux. Ouais, et ça, je peux vous dire qu'en entendant la générosité, soyez généreux comme le Père est généreux. C'est fort. Soyez généreux comme le Père est généreux. C'est-à-dire que je mets à profit les dons que j'ai reçus pour autrui. C'est la signification de générosité. Dieu est généreux. Soyons comme le Père généreux. Que ta conduite soit conduite par la générosité. La générosité. Être généreux. La vie t'a donné beaucoup. Alors, c'est un privilège. Partage ce que tu as reçu pour les autres. Ça ne veut pas dire forcément financièrement, parce qu'il y a des gens qui, tout de suite qui pensent finance. Mais la vie t'a peut-être donné des dons et des talents. Savoir écrire, si quelqu'un dans ton entourage ne sait pas écrire une lettre, écris, parce que tu as ce don. Alors donne ce don. Amen. Fais-en profiter à ton frère et à ta sœur qui n'a pas eu le même don ni le même talent. Tu sais cultiver, tu sais faire un jardin, tu sais l'entretenir et ton frère et ta sœur, moi si je ne suis pas un bon jardinier, eh bien viens aider ton frère ou ta sœur au jardin. C'est ça la générosité. C'est pratique. Si tu vois que ta sœur... Elle est fatiguée, qu'elle n'en peut plus, viens la soulager. Si le Seigneur t'interpelle à l'aider, soyez généreux parce que le Père est généreux. Et cette générosité, elle peut aller jusqu'au, non pas au proche, mais au prochain, de qui tu n'attendras aucun retour. Pas même qu'il se tourne vers Christ. Tu le feras parce que Dieu t'invite à le faire. Afin que la lumière se soit manifestée chez lui sans attendre le moindre retour. Quatrième exhortation, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5,16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Bible nous rapporte que le prophète Daniel priait plusieurs fois par jour à genoux. Le prophète Daniel, il priait et louait Dieu. Pourquoi Dieu l'a tellement envahi de son esprit, lui donnant tant de discernement, tant d'intelligence ? C'est parce qu'il louait le Seigneur. Il ouvrait la fenêtre hein, et la fenêtre était dirigée vers Jérusalem et il louait et priait son Seigneur. Amen. Et la prière n'est pas un rituel, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une obligation, mais c'est l'expression de désirer, de communier constamment avec le Seigneur. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une obligation. C'est une invitation à communier avec Jésus au quotidien, d'associer le Seigneur dans toutes ses entreprises. Et le Seigneur aime ses enfants quand dès le matin, nous lui confions notre journée et les instants que nous allons vivre, quand dès le soir, nous lui confions aussi notre sommeil et la nuit de nos proches. Dans Éphésiens 6, 18, il nous est recommandé de faire en tout temps des prières en tout temps des prières, toutes sortes de prières, en tout temps, toutes sortes. J'aime d'ailleurs l'expression « en tout temps ». Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment précis pour prier. Nous sommes libres de le prier, y compris dans notre quotidien et à toute heure, à toute minute, à tout instant. Toutes sortes, il est dit, toutes sortes. Il n'y a ni dimension d'immunité, ni de dimension contenue dans la prière. La prière n'est ni enfermée dans le nombre, ni dans les moments, ni même dans un format. Il n'y a pas de rituel. Je me mets à genoux, je suis allongé, je suis dans mon lit, même dans mon lit. Ben oui, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas. Mais sois en communion avec lui. Il n'y a pas de format, ça peut être une minute. Tu peux prier une minute, ça suffit pour le Seigneur. Ne multiplie pas les paroles, ce sont les païens qui multiplient les paroles. Ne multiplie pas. Tu lui remets la journée. Amen. Mais si tu as envie, alors là, de prier en langue constamment, oui, fais-le. Parce que là aussi, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de format. Tu le fais. Le Seigneur veut nous ôter, je dirais, de la religion, religiosité, rituel. Nous sommes appelés à vivre selon son esprit. Amen. La prière, c'est avant tout s'adresser à Dieu. La prière, elle peut être intérieure, comme elle peut s'exprimer à voix haute, à genoux, assis. Faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières, par l'esprit, toutes sortes de prières. Ce n'est pas ma chair qui quémande. Ma prière n'est pas quémandée. Ma prière, c'est quelque chose à qui je m'adresse. Je m'adresse au Père. Et je m'adresse au Père en associant Jésus. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est ce qui nous est dit aussi. C'est notre esprit qui loue et prie Dieu. Nous soumettons notre être, nous lui imposons le silence à notre chair avec ses envies, ses désirs, son désir de passer à autre chose. Nous sommes empressés de prier en Église et de nous joindre à chaque occasion lorsque nous nous rassemblons avant le culte, en semaine dans les groupes de prière qui se sont formés dans l'Église. Merci aux groupes de prière qui se sont formés dans l'Église. Mais également le vendredi où plusieurs ici vont adorer le Seigneur. Que toute occasion soit saisie pour nous joindre aux frères et aux sœurs. Et le dimanche, nous devrions être très tôt en réalité pour commencer à prier. Amen. Oui. Pardon, je suis peut-être un peu plus long que d'habitude, mais c'est vraiment le message qui s'est imposé, que Dieu nous donne. Pour l'assemblée. La cinquième exhortation. Sanctifiez-vous. 1 Thessaloniciens 4:7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Pierre 1, 14-16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Cette année, c'est un thème que nous développerons. Mais d'ores et déjà, la sanctification nous concerne tous. Car c'est une invitation à se conformer à Christ. L'Esprit Saint nous invite à nous laisser transformer par son action seule en nous. Par son action seule en nous. Tu ne pourras pas réformer le cœur de ton frère. C'est seulement Jésus qui peut le faire. Attention, ne viens pas réformer les cœurs de tes frères ou de tes sœurs, mais c'est Jésus qui viendra réformer le cœur de ton frère et de ta sœur, lui seul. Si vous saviez quel pécheur j'étais. Heureusement que Dieu et mes frères et sœurs ont été patients avec moi. Amen. Mais c'est l'Esprit Saint qui m'a transformé. C'est l'Esprit Saint qui me transforme. Vous comprenez ce que je veux dire? L'Esprit Saint me transforme. N'allez pas transformer vos frères et vos sœurs, votre famille. Vous n'y pouvez rien. Priez, soyez silencieux, soyez exemplaires. La Bible ne dit-elle pas, je dirais, à l'époux ou à l'épouse d'être un exemple pour son conjoint? Qui sait si tu ne gagneras pas ton frère et ta sœur? par ta conduite, par ton exemplarité, par la douceur de ton cœur, par la douceur de ton âme. Ne te préoccupe pas de la sanctification de ton frère, mais préoccupe-toi de te conformer à Christ, d'être exemplaire, d'être toi pur et sans tache. Dieu ne te demande pas d'aller dépouiller la paille dans l'œil de tes frères et de tes sœurs, mais de soigner ta conduite intérieure. Soigne ta conduite intérieure, afin qu'elle soit ta conduite intérieure inspirante pour les autres. En soignant ta propre conduite, tu inspires les autres. Vous me suivez ? Ou vous m'avez décroché ? Ta conduite intérieure, elle inspire celle des autres. Non ? Donc moi, je n'ai pas besoin de dépouiller la paille dans le cœur de mes frères et sœurs. Je n'ai pas besoin de le faire. Mais si mon cœur se dépouille de sa poutre, alors il y a des frères qui disent « Ah wow ! Ah ben dis donc, il a changé 360 degrés. Enfin non, il a fait demi-tour et il est revenu au point de départ. Non, 180 degrés. Hein ? 180% dit ta maman. 200%, ouais, c'est pas mal. Ah, si vous saviez quel bonhomme j'étais. Il en a fait du chemin. La perfection, mes frères et sœurs, c'est la qualité de Dieu. Mais vous n'êtes pas parfait. Amen. Enfin non, je regrette d'avoir dit amen. Vous êtes conduits à être parfaits, comme le Père Céleste est parfait. Oui, oui. Ressemblez-lui. Ressemblez à Jésus. Dieu est parfait dans toute sa nature, sa sainteté, sa justice, sa bonté, sa miséricorde, sa patience, sa compassion, son amour. Il n'y a pas de ténèbres dans le cœur du Seigneur. Il n'y a point de ténèbres dans le Seigneur, alors qu'il n'en soit pas ainsi dans notre propre vie. Pas de part d'ombre, une vie cachée ou double, un mensonge honteux que nous voulons dérober à la face de Dieu en nous cachant bien souvent dans la dénonciation des péchés des autres. Vous savez, moi je reconnais un pécheur quand il dénonce les péchés des autres. Quand ce frère ou cette sœur dénonce les péchés des autres, alors je me dis, il y a du travail. Hein ? Il y a du travail. Alors ne vous amusez pas à dénoncer les péchés des uns et des autres. Parce que vous aurez affaire au Père, qui viendra vous reprendre et qui dévoilera le péché qui est dans votre propre vie. Soyez humble, parce que le Père est humble. Il est patient, et il est patient avec tous les pécheurs. D'accord ? Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un pêche dans l'Église qu'on est obligé d'aller le rabrouer. Non, je ne le ferai pas. Mais je vais prier pour ce frère et pour cette sœur, pour que le Seigneur vienne transformer son cœur. Et il faudra peut-être prendre du temps. Et toi, sois un exemple. Sois un modèle de vie. Sois un modèle de vie. Amen. Il n'y a pas beaucoup de monde qui dit amen. Engageons-nous dans la sanctification, corps, âme, cœur, esprit et toutes les dimensions qui sont associées, c'est-à-dire la sexualité. Et on en parlera. Les passions, l'affection charnelle, les tentations spirituelles, les tentations occultes. Et sur ce point, confions notre sort entre les mains de notre Seigneur plutôt que dans les horoscopes. D'accord. Donc il y a peut-être à fermer tout de suite la radio quand vous entendez un message qui concerne le signe Sagittaire. Amen. La sixième exhortation, publions son nom. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. comme pour la prière, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Il y a comme une urgence à partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas pour les chrétiens. La bonne nouvelle n'est pas pour les chrétiens. Nous ne sommes pas appelés à prêcher aux chrétiens. Nous sommes appelés à prêcher au monde qui ne connaît pas l'Évangile. Les chrétiens, nous pouvons les exhorter, les consoler, mais on ne leur prêche pas la bonne nouvelle, parce que c'est eux qui doivent prêcher la bonne nouvelle. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Amen. Donc la prédication de l'Évangile, c'est pour les gens du dehors. Ici, nous édifions la maison de Dieu. Nous construisons la maison de Dieu sur des bonnes bases. D'accord ? Mais ouvrez vos maisons pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. Ouvrez vos maisons pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. C'est chez vous qu'ils connaîtront Jésus. C'est à votre domicile qu'ils connaîtront Jésus. D'accord ? Vous comprenez ? Tu ouvres ta maison, ils vont découvrir qui tu es dans l'intimité. D'accord ? Ce que tu es, ce en quoi tu crois, ta capacité à accueillir l'autre spontanément qui vient chez toi. Waouh ! À nous laisser déranger, à nous laisser rendre disponible, non pas pour le proche, mais pour le prochain qui prend rendez-vous et qui veut connaître Jésus. Septième exhortation, et ce sera la dernière, il y en avait sept. Faites des disciples. Nous parlions justement d'ouvrir nos maisons. Mais nos maisons servent à quoi ? Nos maisons, c'est la maison d'abord de ton cœur. C'est ouvre la porte de ton cœur. Et que ta maison devienne un lieu qui engendre la semence de vie. Afin que tu goûtes à la bonté de Dieu, afin que ceux qui viennent goûtent à la bonté de Dieu, fais de ta maison un lieu de vie, un lieu hospitalier, un havre de paix, un toit pour celui qui vient, un lieu ressource, un abri dans la tempête, un toit dans la tempête. Ouvrons nos maisons. Que votre maison soit habitée par un évangile authentiquement vécu. Authentiquement vécu. Quand on ouvre sa maison, c'est qu'on n'a rien à cacher dans sa maison. On ouvre sa maison. Il n'y a pas de secret. On ouvre sa maison. Il y a un jardin secret dans nos vies, hein, toujours. C'est normal. Il y a l'intimité du couple, il y a l'intimité des cœurs, il y a l'intimité de se retrouver en repos. Mais quand tu ouvres ta maison parce que tu n'as rien à cacher. Tu ouvres ta maison. Et je vous parlais de générosité du Père, parce que le Père vous invite dans votre maison à avoir de la générosité. Soyez généreux, car le Père est généreux. Disponible, bienveillant, à l'écoute de l'Esprit, pour enseigner et dire la bonté de Dieu auprès de quiconque accueillera Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Et si vous faites cela, il y a des hommes et des femmes qui viendront à Christ, qui se convertiront, qui amèneront d'autres, parce qu'ils se sont donnés tout simplement au Seigneur en rencontrant celui qui est habité par Jésus. Vous comprenez ? Nous sommes tous invités à être habités par Jésus. C'est le rendez-vous que Dieu nous donne en 2019. Sois habité par l'amour de Christ dans ta vie. Et sois résolu à ne plus juger dans ton cœur. Fini le jugement. Amen. Fais abdication de cela. C'est l'Esprit Saint qui s'occupe des affaires de sa maison. Il s'occupe des affaires de ton frère et de ta sœur. Et il s'en occupe bien, ne t'inquiète pas. Je veux te dire, ne t'inquiète pas, il s'en occupe très, très, très bien. Il fait le ménage. D'accord ? Il met de l'ordre. Tu n'as pas besoin de venir lui dire ce qu'il faut faire. Ne fais pas ça. L'Esprit Saint le fait lui-même. Oh là là. Amen. Parce que l'Esprit est doux. Parce que Jésus est humble. Parce que Jésus, dans ses recommandations, il parle à la conscience du cœur. Quand il dit, non, on ne prend pas le point, mais tu vas faire le point en lisant mon évangile. Voilà, pour que moi je te parle. Parce que j'ai besoin de te parler sur un point où tu n'es pas encore, t'as encore à progresser. Tu dois cheminer. Alors fais le point avec moi. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole, elle s'adresse à chacun d'entre nous ce matin, et tu as donné un rendez-vous pour nous interpeller les uns et les autres à vivre pleinement cet évangile et annoncer l'évangile qui guérit, qui sauve, qui restaure, qui reconstruit, qui, Seigneur, remet de l'ordre dans les vies abîmées, dans les vies détruites. Merci, Père, de faire de nous des ambassadeurs de la réconciliation de tous avec celui qui est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Amen.